Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. Merci aux organisateurs du séminaire, Joseph Césaré, puis à Pierre et Hélène de bien vouloir discuter mon travail. Merci à tout le monde de venir. Voilà, je suis très honorée d'être invitée à présenter mon livre. J'ai intitulé ma présentation « Rester bourgeois » dire clairement que j'allais présenter le bouquin, certains aspects du bouquin, « La gentrification comme processus de reclassement social ». Et donc, je m'appuie sur le livre, mais aussi sur la thèse dont il est issu, hein, qui avait un nom, comme toutes les thèses, plus barbare mais plus explicite, donc j'avais intitulé « Génération de classe moyenne et travail de gentrification ». Changement urbain et changement social. Dans le bas Montreuil, il y a la Croix-Rousse, 1975-2013. Donc, je donne le titre de la thèse parce qu'il donne un peu plus explicitement les deux moteurs qui ont été, enfin les deux envies qui étaient à la base de ce travail, les deux objectifs qui étaient d'une part de travailler sur les recompositions d'un groupe social. Alors, bon, classe moyenne, on sait que c'est très très vaste, mais un sous-groupe, une fraction de ces classes moyennes, quelle est la diversité interne à ce groupe social et quelles sont ses évolutions aussi au cours du temps, en adoptant une entrée par les espaces résidentiels. L'autre chose dont j'avais très envie, c'était de comprendre la mutation de certains quartiers, de ces anciens quartiers populaires en voie d'embourgeoisement ou gentrification, et de comprendre à la fois leur mutation sociale, physique, matérielle, mais aussi symbolique, donc ce que j'ai essayé de désigner à travers ce terme de reclassement sur lequel on pourra revenir. Comment un quartier aussi change d'image, change de valeur, hein, aussi bien économique sur le marché immobilier que sur le plan des représentations collectives. Donc, voilà pourquoi cet objet de la gentrification qui se situe vraiment au croisement entre une sociologie des groupes sociaux et une sociologie urbaine des transformations de la ville. Notamment dans les travaux français qui ne portaient pas explicitement sur ce phénomène mais qui sont les premiers à avoir enquêté, abordé des quartiers en voie de gentrification, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Toujours concomitamment des travaux sur l'émergence de ce qu'on appelait alors les nouvelles classes moyennes, hein, au début des années 80, ou la petite bourgeoisie nouvelle, pour reprendre l'expression de Bourdieu, et dans les travaux anglo-saxons, pareil, les new middle classes, new middle class, ou encore la service class, qui est une expression qui va apparaître un petit peu après. Il y avait ce mot nouveau qui est aujourd'hui beaucoup interrogé, est-ce que c'était vraiment des nouvelles classes moyennes, bon. Mais en tout cas, une forme de renouvellement, d'évolution, de transformation de ces classes moyennes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait un petit peu les suivants, les descendants, les successeurs, les héritiers de ces nouvelles classes moyennes des années 70-80, qui sont-ils? En gros, il y avait une filiation au départ un petit peu implicite ou explicite dans la presse à travers l'expression bobo, hein, qui a débarqué dans les médias en 2000. Moi, j'ai commencé ma thèse en 2003 et vraiment, c'était les années où impossible d'échapper aux bobos, enfin, énormément d'articles de presse sur les bobos, et qui donc établissaient comme ça un petit peu implicitement une filiation avec justement les babas de Claire Météché ou des choses de Pérec, etc. Mais en même temps, je voulais interroger de manière un peu plus consistante cette mutation de ce groupe social. Donc, j'ai pris cet objet qui est la gentrification, plutôt les quartiers en gentrification et leurs acteurs habitants et même résidents. La gentrification pourrait être définie de pas mal de manières, mais moi je me suis tenue à une définition relativement stricte qui est celle un petit peu des origines, on va dire, qui désigne par là la transformation d'anciens quartiers populaires de centre-ville, d'une part par l'afflux de nouveaux habitants appartenant aux classes moyennes et supérieures, et d'autre part par la réhabilitation et la reconversion du bâti ancien. Autrement dit, j'ai écarté les quartiers de ce que j'appellerais plutôt rénovation, c'est-à-dire là où carrément on démolit et on reconstruit du neuf. En fait, la dimension conservatoire, enfin, le fait de faire avec un bâti ancien et de conserver, de transformer en même temps le bâti, mais aussi en partie les gens, l'histoire, etc., est une dimension qui me semblait importante. Et que du coup, j'ai voulu garder cette définition un petit peu stricte de la gentrification. Et donc, phénomène qui entraîne une revalorisation symbolique et économique des lieux. Alors, le point de vue que j'ai adopté dans ce livre, c'est que, bon, rien de révolutionnaire, hein, très classique en sociologie urbaine, comprendre comment l'espace habité participe à la définition de la position sociale des individus, à leur trajectoire sociale, mais aussi à la fabrication permanente, en fait, des frontières d'un groupe social. Comment un groupe social se forme aussi à travers ses manières d'investir l'espace, de travailler sur les frontières du groupe à travers des manières de prendre place dans la ville, à travers des attentes résidentielles, à travers des règles implicites qui s'imposent dans l'occupation des lieux, à travers les goûts et les dégoûts qui s'expriment dans l'aménagement des logements, par exemple, ou des jardins, des espaces intermédiaires. Donc voir vraiment comment cet espace habité participe à la définition des positions sociales individuelles, des trajectoires individuelles, mais aussi de la définition d'un agent social. Et puis, réciproquement, comment les habitants participent à la transformation de la ville à côté d'autres acteurs. Et ça, c'était une manière, un positionnement dans le champ des études sur la gentrification, hein, où, en gros, sans rentrer dans les détails, il y a un champ de recherche qui est déjà très, très constitué, notamment en anglaise, et où se sont polarisés des travaux entre des explications de la gentrification par justement les choix résidentiels des habitants d'un côté, mais qu'on a résumé comme étant les théories de la demande, enfin les théories ou les explications de la gentrification par la demande, et puis de l'autre côté, des explications dites par l'offre, qui se sont focalisées sur les politiques urbaines, ou le rôle des investisseurs, des agents immobiliers, des promoteurs, etc. Et en fait, il m'apparaissait que c'était très réducteur de cette distinction entre demande et offre, hein, et de classer systématiquement les habitants du côté de la demande. Il m'apparaissait assez clairement qu'en fait ils étaient aussi des offreurs d'espaces gentrifiés, hein, au sens où ils fabriquent aussi, enfin, ils participent pleinement à cette gentrification, à cette transformation des lieux, et à fabriquer, à offrir du coup à d'autres qui vont venir derrière des espaces gentrifiés. Donc voilà un petit peu la perspective. Alors pour mener ce travail, j'avais effectivement choisi deux terrains. Un premier terrain qui est le quartier des Pentes de la Croix-Rousse dans le cœur de Lyon, qui est vraiment, qu'on peut considérer comme un cas assez canonique d'une gentrification à la française. C'est un quartier hyper central, indiscutablement historique et déjà patrimonialisé avant même le début de la gentrification, à travers l'histoire glorieuse des ouvriers Camus et de leur révolte au cours du 19e siècle. Donc indiscutablement ouvrier aussi, très dense, et puis qui a connu une gentrification à la française, au sens où elle faisait une grande place à la réhabilitation du bâti, à la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine local, avec une implication assez forte des pouvoirs publics, mais aussi une implication forte des habitants, leurs mouvements militants, etc. Et qui, au début des années 2000, m'apparaissait comme déjà une gentrification très, très avancée, mais me permettant justement de travailler sur ces générations de gentrifieurs, hein, et d'aller voir à la fois les gentrifieurs, donc les ménages arrivés dans ce quartier dans les années 70, 60, 70, 80, et puis ceux arrivés dans les années 2000, pour aussi voir les transformations des habitants faisant ce choix résidentiel, en fait. Voilà. Et puis d'autre part, le cas du Bas-Montreuil, en petite couronne parisienne, qui là apparaissait justement intéressant parce que c'est assez nouveau. Alors, dans tous les articles sur les bobos qui paraissaient au début des années 2000, était évoqué Montreuil un peu systématiquement comme l'exemple du lieu. Enfin, voilà. Après, je me suis rendu compte que c'était en grande partie parce que beaucoup des journalistes qui écrivaient ces articles résidaient eux-mêmes dans le quartier et que donc ça en fait un réservoir à papier, quoi, enfin, extrêmement facile. Donc on en parlait beaucoup, les bobos, Montreuil, etc. Et mais du point de vue justement de l'analyse de la gentrification, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait affaire effectivement à un quartier ouvrier, populaire, en crise industrielle, mais pas indiscutablement central, hein, péricentral à l'échelle de l'agglo, et donc quand même plutôt central, mais pas hypercentre, et puis en termes de division sociale et administrative de l'agglomération parisienne, pour le coup pas du tout central au sens de appartenant à la banlieue, hein, et même à la banlieue rouge, et même à la Seine-Saint-Denis. Donc finalement, a priori, dans une catégorie d'espace qui n'est pas ceux qui étaient à ce moment-là les quartiers, les terrains tout désignés de la gentrification, comme le Marais, ou les Batignolles, ou le Faubourg Saint-Antoine, etc. Et donc ça venait aussi un petit peu télescoper les champs de recherche sur justement la banlieue rouge, sur les quartiers ouvriers, sur les grands ensembles, etc., qui travaillent, généralement on travaille chacun dans notre coin et puis on se parle pas trop. J'ai mis le Bas-Montreuil en gras parce que d'abord il a pris finalement un peu le pas sur le terrain de la Croix-Rouge dans mon travail, même si la première partie de la thèse est vraiment une comparaison des deux terrains, et puis la deuxième partie se focalise sur le Bas-Montreuil, et donc je vais aujourd'hui axer ma présentation sur le Bas-Montreuil uniquement, mais dans les questions je reviendrai volontiers si vous voulez sur Lyon. Et j'ai structuré mon travail de thèse autour de ces trois questions. Qui sont les gentrifieurs des années 70 aux années 2000 dans ces deux quartiers? Donc, comment les caractériser par leurs activités professionnelles, leur rapport au travail, leur rapport à la politique, au militantisme, leur configuration familiale, valeurs éducatives. Voilà. Quelle recomposition, quels héritages des nouvelles classes moyennes? Deuxièmement, quel est le sens de la gentrification, quels sont les ressorts sociaux de la gentrification, c'est-à-dire les puits de ce choix résidentiel. Parce qu'en gros, j'étais partie du principe qu'il y avait une proximité forte entre ces gens-là du fait qu'ils aient fait le même choix résidentiel, sauf qu'en fait, ils faisaient pas du tout le même choix résidentiel. Parce que s'installer dans les camps de la Croix-Rousse en 1970 ou en 2005, ça a strictement plus rien à voir. Donc c'était aussi un travail sur comment évoluent les ressorts sociaux, qu'est-ce qui conduit en fait à être un habitant qui fait ce choix résidentiel dans un contexte lui-même en transformation permanente, hein, avec des politiques publiques qui se sont beaucoup emparées justement de la patrimonialisation comme un outil de réaménagement, ou enfin, voilà, qui ont mis en œuvre pour certains des politiques de gentrification. Donc ce choix résidentiel change de sens au cours du temps. Et puis, troisièmement, question, qu'est-ce que ces gentrifieurs font donc à l'espace, hein, dans quelle mesure ils sont acteurs du changement urbain, et qu'est-ce que ça leur fait à eux de s'impliquer, de s'investir là-dedans. Mes matériaux d'enquête, très rapidement, il y a eu un travail sur les statistiques du recensement, très classique aussi, hein, pour penser l'évolution du peuplement de ce quartier, mais aussi le profil de ceux qui s'y installaient, donc en regardant le profil de ceux que l'on appelle les migrants externes, les statistiques, des données notariales auxquelles j'ai eu accès pour 2 années témoins, des entretiens avec une trentaine de ménages dans chaque quartier, avec des visites de leur logement, parfois des photos, une attention portée évidemment au logement, des observations, des entretiens un peu informels lors de fêtes plus ou moins publiques ou privées, vide-grenier, repas de quartier, soirée, etc. Et puis les entretiens avec le personnel municipal qui pouvait m'éclairer sur tout un tas d'aspects de ces transformations urbaines. Alors, je vais développer la suite de mon exposé en deux temps, en vous présentant d'abord ces gentrifieurs du Bas-Montreuil et quelles étaient leurs aspirations résidentielles, pour comprendre ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi on peut parler de travail de gentrification et qu'est-ce qui est le moteur de ce travail de gentrification et quelle forme il prend. Donc, premièrement, sur ces gentrifieurs du Bas-Montreuil, il faut d'abord que je vous décrive un petit peu les lieux. La commune de Montreuil est donc en banlieue parisienne à l'est de Paris. Elle jouxte le 20e arrondissement. Elle fait partie donc de ces territoires ouvriers du nord-est de la capitale, avec une forte différenciation interne à la ville. Donc, je ne sais pas s'il y a des géographes dans la salle qui ne se moquent pas ouvertement, c'est une carte faite par non-cartographe, mais où j'ai essayé de représenter en fait les différents reliefs de la ville, puisque en fait c'est une ville qui se déploie sur un coteau. Et le quartier qui m'intéressait, le Bas Montreuil, se situe donc en bas, dans la plaine, dans la continuité justement du faubourg Saint-Antoine, qui s'était gentrifié dans les années 80, qui avait fait l'objet d'un des travaux sur lesquels je me suis appuyée au départ, les suites de Catherine Bidou, les aventuriers du quotidien. Voilà, et que, donc vous voyez que en fait, c'est le seul secteur de la ville qui est desservi par le métro, jusqu'au centre-ville, jusqu'à la mairie, mais une vaste moitié nord-est de la ville n'est pas desservie encore aujourd'hui par le métro, ce qui change pas mal de choses. Et tout au sud, on a ici la ligne de RER A, donc, qui permet de rejoindre l'hypercentre de Paris très très rapidement. Et cette station de RER se trouve à Vincennes. En fait, Montreuil a cette particularité d'être un peu la ville frontière entre la Seine-Saint-Denis, ouvrière et communiste, et la ville de Vincennes, historiquement bourgeoise, restée très bourgeoise, et n'ayant pas du tout les mêmes problématiques. Donc ce tissu urbain du Bas-Montreuil, donc le Bas-Montreuil s'est urbanisé dans la deuxième moitié du 19e siècle, tandis que le haut de la ville va s'urbaniser plus tard. Et dans ce Bas-Montreuil, donc, on a un tissu urbain de faubourg ouvrier qui a comme caractéristique d'être structuré par des petites unités de production, des petites usines, pas des usines géantes, parce qu'il n'y a pas la Seine et il n'y a pas de chemin de fer. Donc on est sur de la petite unité, et ça a beaucoup d'importance en fait, cette structure, parce que c'est ça qui va expliquer la convertibilité du bâti par des particuliers. Hein, là où par exemple à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Issy-les-Moulineaux, on avait des emprises industrielles très très grosses qui nécessitaient forcément l'implication des pouvoirs publics et donc une définition du changement urbain par les élus. Là c'est un petit peu différent. Donc, vous voyez là ici une usine de lettres à 7 transformée à la fin des années 80 par des habitants en groupement d'habitat autogéré. Ici une autre usine de micro-métallurgie transformée par un couple en logement au cours du temps, hein, ça a mis du temps. Donc en fait ils ont les trois bâtiments côte à côte, ça fait pas plus de, mettons, 250 mètres carrés de plancher avec les deux étages qui sont là, hein, donc c'est pas gigantesque du tout. Et puis de l'habitat, des maisons individuelles, enfin, pour habiter c'est très grand bien sûr, mais d'accord, mais je veux dire c'est pas une usine géante à reconvertir. Sachant que, je vous raconterai, enfin, tout ça prend du temps, et donc en fait, pendant très longtemps, ils n'ont vécu que dans 80 mètres carrés, parce que c'était trop coûteux de tout ensemble. Des maisons individuelles pas très grandes, mais qui ont l'avantage d'avoir des jardins derrière. Alors, à Montreuil, il y a 15% d'habitat individuel, ce qui est beaucoup, en fait, c'est la commune de Petite Couronne où il y a plus d'habitat individuel, et ça aussi, ça peut expliquer la vitesse de la gentrification dans cette ville, puisque c'est des logements très attractifs, hein, à Paris, il n'y a pas de maison individuelle, en Petite Couronne quasiment pas, mais à Montreuil, il y en a. Voilà. Et puis, ça, c'est une photo de la rue de Paris, qui est cet axe le long duquel il y a le métro, qui est vraiment l'axe structurant est-ouest du quartier, où là, on voit l'habitat collectif de qualité assez moyenne, et puis des commerces, beaucoup de commerces ethniques en pied d'immeuble, et une forte circulation, une forte activité, alors que dès qu'on va dans les rues adjacentes, ça devient très, 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 très calme. Alors, quelques éléments très rapidement sur un petit peu la chronologie de la transformation du quartier. En fait, c'est un quartier qui était donc encore très actif et donc très, très industriel jusqu'au début des années 70 et qui a vraiment connu une crise industrielle vraiment brutale. La ville a perdu trois quarts de ses emplois industriels entre 76 et 87, donc en 11 ans. Dont les deux tiers de ces emplois de la commune étaient situés dans le Bas-Montreuil. Et on observe un déclin démographique de moins 10% entre 75 et 90. Donc, entrée en crise assez rapide, assez sévère, pas mal de friches, et un bâti résidentiel qui a tendance du coup aussi à se dégrader. Il y avait encore un tiers des logements sans WC intérieur en 75. Donc ça, c'est le contexte au milieu des années 70. Mais dès les années 80, en fait, on peut observer un renouvellement du peuplement. Au recensement de 90, on observe que 40% des habitants du quartier sont des nouveaux venus qui n'étaient pas là au recensement de 82, et à nouveau 40% au recensement de 99 sont des nouveaux venus, qui sont des taux de renouvellement significativement supérieurs aux autres quartiers de la ville, même si là, il y a quand même des taux de rotation de l'ordre de 30%. Voilà. Des transformations du bâti qui se voient pas forcément à l'œil nu et qui se voyaient toujours pas au début des années 2000 ou même au milieu des années 2000, avec une amélioration du confort des logements, bon, tout ça on peut documenter par des chiffres, hein, mais des agrandissements, etc. Et des transformations de ces locaux d'activité en logements, désignés par la suite comme les lofts lorsqu'ils sont revendus hein, sur le marché immobilier. Et puis on peut caractériser les nouveaux habitants. Ils ont clairement un profil qui contraste avec la population déjà là. Les jeunes adultes avec enfants forment une bonne partie des nouveaux habitants qui arrivent dans les années 80 comme dans les années 90. Presque 50% des nouveaux habitants ont entre 25 et 39 ans et 21% ont moins de 15 ans. Donc en gros, deux tiers de ces nouveaux habitants sont des jeunes familles. Et les diplômés du supérieur sont très surreprésentés parmi le flux arrivant par rapport à la population déjà en place. Hein. Les diplômés du supérieur représentaient que 7% de la population du quartier en 82 et représentent un quart de ceux qui s'installent dans le quartier dans les années 80 et un tiers dans les années 90. On peut voir cette transformation sur cette jolie carte aussi hein, où voilà, on voit l'évolution de la part des titulaires d'un diplôme supérieur à bac plus 2 au cours des, enfin, entre 90 et 99, où se distingue clairement cette partie, le bas Montreuil, et puis deux autres secteurs qui sont marqués par un tissu là aussi de pavillons, mais pas des pavillons post-Seconde Guerre mondiale, mais du tissu pavillonnaire d'avant la Seconde Guerre mondiale. Transformation aussi de la composition socio-professionnelle dans le quartier, hein, sans surprise. Ce qui est intéressant, la seule chose peut-être à souligner dans ce tableau, c'est que si on regarde la photo en 75, le bas Montreuil est le quartier où la part des cadres et professions intellectuelles est la plus faible dans la ville de Montreuil. Montreuil deux fois plus faible qu'en Ile-de-France. Et les choses s'inversent. Hein, en 2011, il y a plus de cadres dans le Montreuil qu'à Montreuil, et plus à Montreuil, non, ça c'est pas vrai, il y a plus que, en tout cas plus qu'en Ile-de-France également. Donc voilà, et en même temps, il faut bien voir que ce processus de transformation du peuplement du quartier s'inscrit dans des tendances de fond, hein, qui de toute façon vont se diffuser ensuite à l'ensemble de la commune et de la petite couronne. C'est pas un quartier qui va à rebours de ce qui va se passer ailleurs, c'est juste que ça y va plus vite. Très nettement. Alors, une particularité par contre, quand on regarde les transformations du peuplement et le profil des nouveaux arrivants, ça correspondait effectivement à ce qu'on disait dans la presse, hein, donc ce n'était pas une grosse surprise pour moi, mais ce graphique présente la composition par CS détaillée des nouveaux habitants appartenant au groupe 3 et 4 de l'INSEE, donc cadre de profession intellectuelle supérieure et profession intermédiaire, donc les migrants arrivés entre 82 et 90 en gris pâle et entre 90 et 99 en gris foncé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'à rebours de certaines théories sur la gentrification, ce ne sont pas les artistes qui arrivent en premier. Donc c'est la quatrième colonne, les professions de l'information, des arts et des spectacles. Mais bien plutôt les professionnels du secteur public, hein, donc professions intermédiaires de la santé et du travail social. Et puis voilà les cadres d'entreprise et des cadres du public et en fait les enseignants. Et par contre on a une explosion du nombre de professionnels de l'information, des arts et des spectacles entre le flux des années 80 et le flux des années 90, le flux triple de volume. Voilà, donc il représente effectivement un profil très, très spécifique de nouveaux arrivants des années 90 qui peut s'expliquer par différentes choses. Et donc, ils vont être très surreprésentés dans mon corpus d'enquête. Donc, ceux que j'ai rencontrés, effectivement, sont arrivés entre 85 et 2007 dans le quartier, sont en grande majorité des gens qui ont acquis leur logement et souvent qui ont acquis une maison individuelle ou un ancien local industriel qu'ils ont reconverti, mais quelques-uns étaient aussi en appartement, qui du point de vue des professions appartenaient soit au CPIS soit au PI et qui relevaient largement des professionnels de la diffusion artistique et culturelle ou de la production artistique et culturelle, avec aussi voilà, quelques enseignants, cadres du public, cadres du privé. Et très souvent, des configurations avec des activités professionnelles mixtes, alliant une activité dite alimentaire et une activité dite plus de vocation, hein. Donc souvent une activité artistique qui ne rapporte pas suffisamment pour vivre, mais voilà, donc un temps partiel et associé, par exemple, du graphisme pour une boîte commerciale, et puis à côté, un travail de photo, ou des choses comme ça. Ce qui caractérise ces professionnels, c'est leur statut extrêmement varié. Hein. J'avais des intermittents, des freelances, des salariés et des gens avec aucun autre statut que celui de la maison des artistes. Donc ça a des niveaux de protection sociale très variés. Et puis des revenus qui peuvent être assez irréguliers, qui sont très incertains, enfin, où il y a une incertitude éternellement renouvelée quand même. Et des revenus aussi très hétérogènes, hein, au sein de ce groupe professionnel. Donc voilà, journaliste pigiste, chef opérateur de ciné ou télé, plasticienne, graphiste freelance, danseuse, photographe, conceptrice d'exposition, rédactrice pour une maison d'édition, éditeur scientifique. Alors, le deuxième ensemble de caractéristiques qui est intéressant aussi en écho aux travaux des années 80, c'est leurs origines sociales et leur trajectoire de mobilité. Les travaux sur les nouvelles classes moyennes montraient qu'en gros, on avait affaire à un ensemble de gens plutôt en ascension sociale, hein, pour des raisons structurelles, de transformation de la structure sociale, et d'ouverture des places dans les services de l'État-providence et dans les professions culturelles. Et en fait, moi, dans mon corpus, j'ai vraiment moitié-moitié de gens qui sont en ascension et de gens qui sont dans une trajectoire plutôt descendante, au contraire, avec pas mal de couples mixtes de ce point de vue-là, un ascendant, un descendant, qui s'explique par le fait que j'ai choisi des gens qui ont acquis leur logement et qui donc, en fait, pour faire cette acquisition, avaient quand même besoin d'un petit patrimoine initial, étant donné que leur revenu était soit médiocre, soit assez fluctuant. Donc, c'est comme ça que j'explique hein, cette présence de couples mixtes, puisque je pense que ceux qui n'avaient pas du tout de patrimoine initialement sont restés locataires ou ont acquis des petits appartements de 50-60 mètres carrés qui sont effectivement quasiment pas représentés dans mon corpus. Mais c'est intéressant, enfin, ces couples mixtes sont intéressants parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes dispositions, ils n'ont pas incorporé les mêmes dispositions aux cohabitations avec des ménages de catégories plus populaires, et ils n'ont pas les mêmes enjeux de trajectoire sociale aussi au sein du couple. Et donc ces enjeux de trajectoire sociale, en fait, il m'est apparu, donc je m'arrête deux minutes là-dessus parce que je pense qu'il y a une analogie qui peut être intéressante à faire entre leur rapport au travail et leur rapport au lieu. C'est-à-dire que je les ai fait parler un petit peu voilà, de leur choix professionnel et leur arrivée dans cette profession culturelle. En fait, il y avait un petit peu deux profils qui se dégageaient. Ceux qui étaient dans des professions culturelles qu'ils avaient choisies surtout pour la possibilité de se mettre à son compte en fait, et de se créer une activité presque sur mesure en fonction de ce qu'ils savaient faire. Et qui était plutôt d'origine soit populaire, soit petite classe moyenne, qui avait mené des études un petit peu en bataillant, en travaillant à côté, en parvenant pas toujours à aller jusqu'au diplôme, etc. Et pour qui, en fait, il y avait le choix entre une profession intermédiaire relativement sécurisante, mais qui leur paraissait finalement pas assouvir leurs aspirations de mobilité ascendante. Soit, j'ai en tête le cas de Jean qui est originairement de classe populaire, qui arrête très très tôt ses études et qui finalement fait beaucoup les cantines, s'occupe d'enfants, etc. Et finalement voit qu'il pourrait se titulariser comme éducateur, voilà. Et qui en fait, en même temps, a pris beaucoup de cours de danse, fait des participe à des shows télévisés comme danseur, fréquente beaucoup le monde de la nuit, participe à des performances, des vidéos, etc. Et qui finalement va rentrer dans le milieu de l'audiovisuel par ce biais-là et qui préfère, qui dit clairement qu'à un moment donné, il fallait faire le choix entre une certaine sécurité de l'emploi et du revenu, mais pas beaucoup de perspectives d'évolution, et puis un emploi qui lui paraissait finalement pas à la hauteur de ses aspirations professionnelles, et puis un emploi beaucoup plus incertain, mais qui offrait des possibilités de se créer sa propre activité et d'être son propre patron, grosso modo. Et donc, il décide de basculer du côté de la production audiovisuelle et de devenir producteur, puis directeur de production, etc. Ou une autre, architecte d'intérieur, hein, qui crée aussi son activité de graphiste pour architecte, qui allie les savoir-faire qu'elle a obtenus en bac pro, mais aussi dans des études d'archi pas menées jusqu'au bout, et qui se fabrique comme ça un emploi, et qui va aussi choisir entre être assistante dans un cabinet d'archi et indépendante. Elle choisit de se mettre à son compte, elle gagne deux fois moins, mais elle est sa propre patronne, et finalement le choix de cette activité, c'est vraiment le choix en fait d'être indépendant, d'être à son compte. Et c'est comme ça que pour eux se manifeste la réussite professionnelle, en fait. Hein. C'est comme ça qu'ils assouvissent leurs ambitions professionnelles. Et inversement, on a ceux qui sont d'origine sociale beaucoup plus élevée, qui vivent leur choix d'une profession artistique beaucoup plus sur le mode de la vocation. Et du coup du renoncement aux gratifications matérielles et au fait qu'ils embrassent des professions artistiques en sachant que ça leur rapportera pas grand chose, mais ils le font vraiment sur le registre de la vocation. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée qu'il y a vraiment des trajectoires professionnelles assez fréquentes où on se crée son propre métier, sa propre position. Et ça faisait écho à une phrase que j'avais retenue de la distinction de Bourdieu, qui caractérisait cette petite bourgeoisie nouvelle par le fait qu'elle ajustait ses postes professionnels à ses ambitions, plutôt que d'ajuster ses ambitions aux postes existants. Hein, il expliquait comme ça toute la création d'un certain nombre de nouveaux métiers, de conseiller en ceci ou en cela. Voilà. Et il me semble qu'en fait, il se passe un petit peu la même chose sur le plan résidentiel. C'est-à-dire qu'on va se trouver avec des gens qui sont coincés un petit peu sur le marché du logement et qui, en gros, ont le choix entre ajuster leurs ambitions à l'état du marché du logement ou ajuster leur position résidentielle à leurs aspirations, à leurs ambitions. Et en fait, ils vont faire ce deuxième choix. En menant là aussi un travail pour finalement transformer, hein, faire prendre ce qu'ils peuvent avoir et l'ajuster à leurs ambitions en menant tout ce travail de transformation des lieux, de gentrification. Et donc avant de vous présenter ce travail de gentrification, dernière info sur ce corpus d'enquêter, j'ai pu identifier deux générations de gentrifieurs. Alors, le terme de génération, je ne suis pas hyper solide avec. Il y a évidemment l'idée derrière de génération sociodémographique, au sens où j'ai clairement ceux qui sont arrivés dans les années 80 et jusqu'au tout début des années 90, qui appartiennent, qui sont des baby-boomers tardifs, grosso modo, et qui ressemblent fortement à ceux décrits par Catherine Bidou ou par Pierre Bourdieu dans la distinction. Et puis, une génération, celle qui arrive dans les années 90 et au début des années 2000, qui est née dans les années 60 et qui a connu une insertion sur le marché du travail beaucoup plus délicate, hein, parce que ça correspondait aux cohortes identifiées par Louis Chauvel dans son travail, et cette cohorte de ceux qui rentrent sur le marché du travail après 93, en fait, hein, un moment où vraiment le marché du travail s'enraye très, très nettement. Et cette deuxième génération ne présente pas non plus exactement les mêmes profils en termes de trajectoire d'études. Il y a plus de trajectoires interrompues et plus, dans mon corpus aussi, une surreprésentation de techniciens de la culture, hein, et plus seulement d'intellectuels de la culture. C'est-à-dire, par leur formation, ils ont plus davantage qui ont ce profil de techniciens de la culture et moins de gens qui sont passés par l'université, par des facultés, des écoles d'art plastique, etc. Et plus des formations courtes à débouchés professionnels. Alors, ce qui explique leur installation dans ce quartier, hein, clairement, c'est assez simple, c'est le souhait initial de rester à Paris. Tous ceux que j'ai interrogés habitaient Paris avant d'habiter Montreuil, même si plein venaient d'ailleurs initialement. et leur souhait de rester à Paris est très très fortement lié à l'importance du réseau professionnel dans ces métiers-là. Deuxièmement, le besoin d'un espace pour travailler, donc c'est aussi lié à leur profession, ils sont à leur compte, donc il faut se créer soi-même en fait son espace professionnel. Et en même temps, ils sont à un moment de leur trajectoire où ils ont des enfants qui arrivent, et donc il faut passer à un logement de dimension familiale. Et puis le dernier élément qui est lié à leur trajectoire et à leur statut professionnel, c'est le souhait très fort d'accéder à la propriété, que beaucoup expliquent par le besoin d'avoir au moins quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. C'est-à-dire qu'on sait que les revenus, c'est fluctuant, le métier de la profession, on ne sait pas de quoi demain sera fait, les retraites, pour ceux qui voient si loin, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, qu'elles seront maigres ou pas terribles. Donc il faut régler la question du logement pour pouvoir ensuite se remettre un peu plus sereinement à travailler. Donc, et ça, c'est vraiment un gros enjeu hein, pour la plupart, y compris dans les années 90 où le marché du logement est beaucoup moins tendu que ce qu'on connaît depuis le début des années 2000 en région parisienne. Et puis, se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on pourra laisser aux enfants, et ils savent qu'en gros, ce n'est pas par le boulot qu'ils vont y parvenir. Donc, des enjeux de trajectoire professionnelle et familiale, également des goûts et des préférences qui se manifeste très clairement en faveur du centre-ville, hein, et qui là peut s'inscrire dans une histoire de la valorisation des différents espaces de la ville. Mais on va le voir dans un instant, le goût pour le centre-ville est renforcé très nettement dans les années 90 par le dégoût pour la banlieue, hein, et par la construction du problème social des banlieues. Un dernier élément, je l'ai mentionné tout à l'heure, de leur choix résidentiel, c'est l'existence de ressources et notamment d'aides familiales. On est sur. Est-ce qu'ils sont mes chiffres ? Je ne sais plus. Je crois que dans l'enquête logement 2003, je crois que c'est 25% des primo-acquéreurs qui disposaient d'une aide familiale pour faire leur acquisition. Moi, dans mon corpus, c'est tous les enquêtés. Ils avaient tous une aide familiale et le patrimoine hérité s'élevait à entre 25 et 50% du montant de l'achat. Donc c'est en fait un élément tout à fait crucial qui leur permet de faire cet achat. Alors, dans leur choix résidentiel, on voit donc que, contrairement aussi à certains discours parfois véhiculés dans la presse qui diraient voilà, les bobos aiment les pauvres, ils aiment les quartiers populaires, ils aiment les immigrés, etc. Au départ, ils voudraient bien rester plutôt dans Paris et plutôt dans des quartiers déjà gentrifiés, auxquels ils s'identifient très bien parce que c'est des gens comme eux qui vivent, qui sont juste un peu plus installés, un peu plus âgés, mais ils n'en ont plus les moyens. Ou ils n'en ont pas les moyens. Donc, en gros, faut franchir le périph, il faut partir en banlieue. Et ce qui m'est apparu, c'est que c'est moins difficile, paradoxalement, pour la première génération que pour la seconde. C'est moins difficile pour ces baby boomers là, qui s'installent à la fin des années 80, alors qui ont peut-être un profil spécifique du fait qu'ils sont encore là dans les années 2000, hein, et qu'en plus, je les ai rencontrés parce qu'eux aussi, ils étaient très impliqués dans le quartier. Donc, ça en fait certainement des gentrifieurs spécifiques, et il y en a plein qui ont dû repartir entre-temps. Mais ceux-là, en tout cas, disent que pour eux, la banlieue ne leur faisait pas vraiment peur en tant que telle. Il n'y avait pas d'a priori trop négatif par rapport à la banlieue. Ce qu'ils voulaient, c'était le métro. Hein, donc après, qu'il soit dans Paris ou à l'extérieur, ce n'est pas grave. Et un enquêté voit bien que son quartier, que le centre-ville de Montreuil, c'est bien plus urbain que certains secteurs de Paris qui étaient morts, qui étaient vieux, qui étaient éloignés des transports, etc. Et donc lui, il inverse justement ces termes de Paris ou Faubourg hein, en disant ici. Ici, donc le bas Montreuil, c'est beaucoup plus parisien que notre ancienne rue au fin fond du 13e arrondissement qui faisait faubourg-faubourg comme on ne peut pas imaginer à l'époque. Alors, les discours changent quand même dans la génération suivante, où là, clairement, hein, tous disent que franchir le périphérique, c'était difficile, c'était une épreuve, il y avait un travail psychologique vraiment à faire, un travail d'apprentissage. Il y a vraiment beaucoup de mots qui reviennent pour qualifier cette phase-là, qui est beaucoup décrite comme une phase difficile. Cette frontière au départ, ils la voient de loin comme une frontière entre Paris et la banlieue, et bien obligés d'aller voir en banlieue, ils vont finalement la déplacer entre le bâti ancien et les grands ensembles. C'est-à-dire finalement on s'aperçoit que en banlieue, il n'y a pas que des grands ensembles, il y a aussi des quartiers qui ressemblent à de la ville ancienne ou à du tissu urbain central ancien. Et donc, voilà, on va redessiner cette frontière entre les espaces désirables et les espaces repoussoirs à la vue du bâti. Donc, quelques extraits d'entretien. Un couple mixte du point de vue des trajectoires sociales, où l'homme d'origine plutôt populaire, fils de petit coiffeur indépendant des Vosges, me dit « Moi, la banlieue, j'y mettais jamais les pieds. C'est vrai qu'il y a cette espèce de frein. La banlieue, déjà à l'époque, on commençait à parler des banlieues plutôt en mal. Et c'est vrai que dès que ça faisait trop banlieue, on laissait tomber. » Donc eux, ils arrivent en 98 et voilà, ils ont la sensation qu'on commence à parler des banlieues en mal. Et quand ils font leur visite, ça fait banlieue, c'est, je leur demande bah, c'était quoi quand ça faisait banlieue, c'était comment. Donc, bah, c'est systématiquement quand il y a une barre ou une tour, donc c'est vraiment la forme architecturale. Alors même que parfois ils désignent des ensembles dont moi je sais que c'est de la propriété occupante ou que c'est pas forcément du peuplement très populaire, mais voilà, c'est la forme architecturale qui compte. Un autre qui me dit, on a tous des a priori par rapport à la banlieue, c'est vrai qu'il y a des banlieues qui craignent, c'est évident, tu vas dans les cités, qui aurait envie d'aller là-bas? Tu vois, les gens, s'ils y sont, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Qui aurait envie d'aller habiter là-bas? Donc, vision très repoussoire. Je mets sa citation parce qu'un peu plus loin, je vous en ai fait une autre. On voit que son regard sur les lieux change complètement. Et puis, une autre enquêtée qui me dit, par exemple, tu sais, quand tu es parisien, alors elle est d'origine très bourgeoise, elle a grandi dans le 6e arrondissement. Mais de cette bourgeoisie, justement, appartenant à ces nouvelles classes moyennes qui ont connu des trajectoires d'ascension par la suite, hein, une mère galeriste dans le 6e partie ensuite faire son retour à la terre à la fin des années 70, je crois, et un père est expert dans les organisations internationales, et qui me dit, tu sais, quand t'es parisien, l'idée d'aller en banlieue, c'est affreux. Alors, donc ils se rendent compte que le Bas-Montreuil, quand même, ça ne ressemble pas aux quartiers sensibles et aux us dont on entend parler à la télé. Et à travers le bâti, en fait, en voyant ces petites maisons individuelles, ces immeubles de rapport le long de la rue de Paris, etc., ils anticipent en quelque sorte un rapport de force favorable avec les autres habitants, au sens où ils perçoivent bien que c'est un quartier populaire avec beaucoup d'immigrés, mais ce n'est pas le même peuplement que dans les grands ensembles où les habitants ont une légitimité et un ancrage à être là du fait de leur bail, hein, et du fait d'être locataire HLM. Ça leur offre une stabilité et un ancrage et une légitimité à être là que n'ont pas les migrants hébergés par des marchands de sommeil le long de la rue Paris, grosso modo. Donc c'est jamais formulé explicitement en disant on va pouvoir les mettre dehors, c'est évidemment pas du tout l'idée, mais c'est pas les mêmes classes populaires, c'est des classes populaires clairement plus fragiles, ou alors des ouvriers vieillissants, etc. Donc il y a une place, il y a de la place, il y a une place à prendre. Le troisième élément qui me donne pour requalifier, revoir un peu leur première vision des lieux, c'est qu'en fait cette banlieue-là serait un faubourg, et non pas une banlieue, hein, un faubourg, et comme tous les faubourgs, ils savent, parce que la littérature commence déjà beaucoup à se diffuser à l'époque, qu'elle sera amenée à se gentrifier, hein, probablement. Donc là, on voit aussi un effet de la diffusion des travaux de recherche. Sur cette génération, il y a un effet très net, hein, de la présence des premiers gentrifieurs, de cette première génération des baby boomers qui, on va le voir, se sont investis de multiples façons dans la vie locale. Leur présence même les rassure. Hein, ce sont des gens qui sont visibles, qui sont implantés localement, qui font des choses et dont ils peuvent voir que la municipalité accueille assez favorablement leur démarche. Donc tout ça contribue, il y a beaucoup de bouche à oreille, hein, qui permettent de savoir qu'effectivement ils ne sont pas malvenus. Donc voilà, en quelque sorte, quand la ville de Montreuil inquiète, le Bas-Montreuil rassure plutôt. Mais il y a quand même tout un travail à faire pour se faire à cet espace et pour le faire à soi-même. Donc c'est ce travail de gentrification. Donc j'ai un petit peu débordé, je prends quand même, je peux prendre 10 minutes, un quart d'heure ou c'est trop?
Plutôt 5-10.
5-10, je vais aller vite, d'accord. Donc sur ce travail de gentrification, c'est un travail, en fait, dans l'expression « se faire à cet espace », j'ai souligné parce que clairement c'est un travail qui passe d'abord par un travail sur soi, en fait, ou un travail de soi, comme dirait Muriel Darman, c'est-à-dire se réformer soi-même, en fait, pas un travail sur soi au sens de réfléchir à qui on est, mais vraiment un travail pour se transformer soi-même. Alors ça commence comme ça, avec ce travail de conversion du regard sur les lieux, en fait. Et de passer, j'ai résumé ça en disant c'est le passage de la banlieue au faubourg. Alors il y a cet opérateur magique qui est le charme des lieux. On sait que les agents immobiliers utilisent énormément ce terme qui permet de qualifier tout ce qui justement est invendable, enfin ce qui ne correspond pas du tout aux critères de valorisation classiques. Et de fait, hein, donc un enquêté me dit comme ça, toujours ce couple mixte là, au début on était extrêmement dérangés visuellement, il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent, c'est tout un truc. Oh oui, c'était dur, hein, elle était renchérie, et lui ceci dit, après moi j'ai fini par comprendre le charme de ces endroits, le côté complètement hétéroclite, éclaté, il y a un vrai charme à tout ça. Il n'y a pas une maison qui est semblable à l'autre. Tout est très habité. Donc il dit la même chose deux fois, mais la deuxième fois, voilà, ça y est, il a compris le charme. Bon, c'est vraiment une adaptation, hein, une transformation du regard. Et puis, je vois aussi dans mes entretiens qui sont assez longs, je leur ai fait raconter leur choix résidentiel plutôt en début d'entretien, et puis une heure et demie plus tard, quand on parle de leur vie dans le quartier, de comment ils le perçoivent, etc., ils n'utilisent plus du tout les mêmes mots. C'est-à-dire que quand ils me parlaient du choix résidentiel, il fallait franchir le périph, il fallait partir en banlieue, et au moment de parler du quartier, il n'y a plus du tout le mot banlieue. On n'est pas en banlieue, en fait. On est dans un faubourg, ou on est dans une petite ville, une petite municipalité, voire même en province. Ou à la campagne. Donc, tout un vocabulaire qui permet de requalifier aussi les lieux et d'y voir autre chose que cette banlieue médiatique dépréciée. Donc, je ne vais peut-être pas lire tous les extraits, mais bon, il y en a une enquêtée qui vraiment romance sa vie et la. Enfin voilà, il y a toute une mise en scène aussi bien dans le décor, dans son habillement, dans sa manière de parler, qui en soi est très, très intéressante. C'est celle qui est graphiste pour architecte et donc aussi d'origine petite classe moyenne et qui elle a grandi dans le 93 et qui va le revendiquer comme un signe d'authenticité. Hein, mais on sait que parmi les classes supérieures, le rapport à la culture populaire a toujours été un carburant en fait de la fabrication de la culture des classes supérieures, mais que ça suppose un rapport à l'authentique, à l'authenticité, de pouvoir trouver l'authenticité de ce qui provient du populaire. Et donc elle travaille là-dessus, en fait, en quelque sorte, à son insu, en revendiquant en permanence l'authenticité de son ancrage populaire à elle. Bon, voilà. Donc, je ferme la parenthèse, et donc voilà, elle me dit quand je vais à Paris, c'est comme les gens qui sont en province qui n'ont pas la ville, la tête qui tourne, qui regarde les magasins parce qu'il n'y a pas ça ici. D'ailleurs, maintenant, pour rigoler, quand je vais à Paris, je ne dis pas je vais à Paris, je dis je monte en ville. Et puis, celle qui était laconique tout à l'heure, la banlieue, c'est affreux. Un truc que j'aime dire à Montreuil, c'est les mouches comme à la campagne. Donc, bon, c'est des tout petits exemples, mais on pourrait les multiplier. Dans la conversion du regard, il y a tout ce travail de rapport à l'histoire des lieux aussi, qui va être un rapport sélectif, bien sûr, hein, une appropriation sélective de l'histoire locale, où on va complètement effacer la présence des ouvriers de la grande industrie, des travailleurs migrants, logés, très mal logés, etc. Et au contraire, mettre en valeur d'autres figures du populaire, donc notamment les artisans, ceux qui ont une qualification, qui ont un savoir-faire manuel, les élites ouvrières au service de la capitale, qui ont participé à des grands chantiers fastueux, ou qui ont travaillé pour milieu culturel, mais en tant qu'ouvriers, qui ont travaillé pour des institutions culturelles, ou encore des chanteurs, des acteurs populaires, qui, voilà, Lino Ventura, Jacques Brel, hein, cité par une enquêtée, qui ont réhabité Montreuil, invérifiable, mais ça, comme elle le dit elle-même, elle me dit ça me fait plaisir de savoir qu'ils ont habité là. Donc on cherche des petites sources comme ça de plaisir, en fait, d'identification avec des figures du quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que, je disais tout à l'heure, ce terrain m'a un petit peu attrapé, m'a un petit peu saisi, parce qu'en fait, il y a un enjeu, je vois bien, pour eux, ils prennent le temps de me raconter ce quartier, de me le raconter à leur manière. Et donc, de diffuser aussi auprès de moi, qui suis une visiteuse, hein, cette image du quartier, qui est une autre image que celle des médias. Et alors typiquement, c'est devenu hyper clair pour moi, le jour où un enquêté, que j'ai revu à plusieurs reprises, me donnait toujours un petit cadeau. Donc il m'avait donné un livre de texte sur les faubourgs parisiens, vraiment travaillé beaucoup sur cette idée du faubourg parisien, et non pas de la banlieue, sur les faubourgs des années 50 et tout ça, qui un jour me donne une pochette, alors j'ai effacé dans ma tête, mais c'est idiot, j'aurais dû le laisser, il y avait marqué « Pour Anaïs Collet ». Au début, je me suis dit, mais bon, je sais me mettre en avant, j'efface. Mais en fait, non, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il avait fabriqué pour moi une pochette de dessins qui fait de toute façon, hein, il en produit plein, des dessins de son quartier où il ne sélectionne que du bâti relevant effectivement de l'architecture faubourienne d'avant la Seconde Guerre mondiale et des bâtiments destinés à sans doute voués à la démolition. Et donc, voilà, c'est son petit bas Montreuil de poche qu'il offre à ses visiteurs. Un dernier exemple de ce travail sur l'image des lieux, Le scan est vraiment de très mauvaise qualité, donc je suis désolée, mais c'est un magazine que fabrique un certain nombre de gens tricheurs qui sont tous plus ou moins dans le milieu de la presse et qui vont décider eux-mêmes de fabriquer un journal sur mon troll. Bon, je rentre pas dans les détails, mais là, le dispositif est incroyablement limpide de fabrication d'une nouvelle image et d'un nouveau discours et de mettre des nouveaux mots et d'inventer de nouvelles figures locales. Et le dossier central de ce magazine est conçu sur un dispositif suivant. Nous invitons quelqu'un n'habitant pas Montreuil, plutôt de milieu culturel, nous lui donnons un appareil photo, il prend des photos dans le quartier et après il nous les commente. Et donc c'est vraiment, ça s'appelle vraiment fabriquer de nouvelles images sur les lieux. Et donc, le premier invité, c'est un DJ, compare systématiquement Montreuil à Berlin ou au Marais. Hein, c'est ces deux référents. Et il fait vraiment un travail de sélection dans le paysage. Alors, deuxième travail, je vais aller très très vite parce que les photos vont parler pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de commenter, mais c'est le travail sur les logements. Là, c'est vraiment le travail matériel de transformation des logements. Aménager ces espaces, du coup, permet effectivement d'exprimer des manières de vivre, des goûts, des dispositions, mais aussi un ethos dans la manière de faire, et notamment un positionnement important de cette fraction des classes moyennes supérieures à capital culturel à l'égard des fractions à capital économique. C'est très important de se situer dans cette tension-là qui date depuis toujours, quoi, et de se situer du côté de ceux qui n'ont pas le capital économique, mais qui du coup font par eux-mêmes et développent des savoir-faire. Et puis enfin, clairement, je me suis bien rendu compte que le fait de faire eux-mêmes des travaux, de transformer leur logement, c'était possible aussi parce qu'ils avaient toute une gamme de ressources autres que l'argent. Donc il y avait l'argent, la mise initiale qui avait permis d'acheter le local ou la maison, et ensuite, même avec peu d'argent, d'autres ressources comme du temps, c'est absolument primordial, le fait de pouvoir, ou d'être obligé d'ailleurs de ne pas travailler pendant un certain temps, des conseils de gens qui sont eux-mêmes enseignants en sculpture à l'école du Louvre, ou ceci ou cela, enfin je prends des exemples que j'ai en tête, mais donc des gens qui ont des savoir-faire manuels, des conseils de gens qui sont dans le milieu aussi, des politiques urbaines, et des politiques du logement qui peuvent aider pour le montage des dossiers, l'obtention des permis de construire, etc. Un capital social ou l'engagé qui peut aider justement à obtenir, à décrocher son permis de construire parce que ce n'était pas toujours évident. Donc voilà, tout un ensemble, toute une gamme de ressources autres que l'argent qui permettent de transformer les lieux et aussi donc une maîtrise des codes architecturaux. Où en gros vont être systématiquement mobilisées et citées des esthétiques précises qui sont celles d'une part du logement ancien, type logement haussmannien, et d'autre part du loft, avec l'esthétique industrielle. Donc les deux sont savamment agencés. Donc en gros, là, c'est l'exemple de la transformation de ce pavillon qui était décrit par les enquêtés vraiment comme l'antithèse de ce qu'ils voulaient. Ils avaient visité une maison ancienne, pleine de charme, avec des planchers pas droits, des araignées partout, etc., qui leur disaient beaucoup, mais ils ont bien mesuré qu'eux n'avaient pas toutes les ressources nécessaires pour faire les travaux. Et donc, ils se sont rabattus sur ce pavillon habitable, mais qui était l'inverse de ce qu'ils cherchaient, je reprends leurs mots, parce qu'il y avait du crépi sur la façade, des barreaux aux fenêtres, un affreux rosier, je cite, et une allée toute droite, rectiligne, en dalles de gravier. Et ça, c'était, tout ce qu'ils exécraient le plus, c'était vraiment le pavillon de banlieue, qu'on voit ici aussi. Et voilà, après transformation, le jardin, alors j'ai pas pu prendre la façade pour garder l'anonymat, mais ça c'est à l'intérieur du jardin, le local qui a été transformé en labo photo. Et puis le mur qu'on vient de voir à l'instant, qui est transformé en faux vieux mur, puisqu'il était peint uniformément en beige, et qui là a une peinture qui fait faux vieux. Plus ces panneaux volés qui expriment bien aussi ce rapport de transgression en fait, qui fait partie aussi de la culture de ce groupe social, de montrer qu'on est capable de franchir des barrières sociales, mais aussi des barrières juridiques ou légales, ou je ne sais pas comment le dire, mais en fait voilà, de s'affranchir d'un certain nombre de frontières. Et puis ces pavés parisiens, qui ont été totalement importés, puisque vous avez vu avant que c'était des dalles de gravier, donc ils ont été cherchés ailleurs pour recréer du pavé parisien. Bon voilà, de l'audace dans les couleurs, de la transformation qui fait référence au style industriel, bien sûr. Je résume à toute vitesse le reste du travail, mais de toute façon, tout ça est assez vaste. Mais une troisième catégorie de mobilisation qu'on peut rattacher à ce travail de gentrification, ce sont les investissements plutôt dans l'espace public. Il y a tout un travail sur la création d'une sorte de centralité. Le Bas-Montreuil n'a pas toujours été, d'abord, n'a pas toujours été désigné comme un quartier, comme le Bas-Montreuil. Et quand il l'est devenu, il y a des centralités qui se sont constituées et les gentrifieurs arrivés à la fin des années 90, au début des années 2000, ont pas mal participé à ça en créant, par exemple, des lieux de rendez-vous et des rituels, des moments, des lieux et des moments où ils savaient qu'ils allaient se retrouver dans tel bar, dans tel café, sur le marché du dimanche matin, à la sortie de l'école, etc. Donc, il y a création d'une centralité et puis création d'événements qui font venir des gens de l'extérieur et qui du coup est l'occasion pour eux de faire venir leurs copains ou leurs familles rester à Paris et de leur montrer, de placer Montreuil aussi sur la carte hein, mentale de leur déplacement. Donc ça aussi tu peux rattacher hein, à ton circuit de mobilité, Montreuil c'est, finalement c'est pas si loin, etc. Dans les investissements dans l'espace public, il faudrait développer, mais il y a toutes les mobilisations pour la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, notamment du patrimoine industriel et du patrimoine horticole, puisqu'il y a une histoire horticole à Montreuil. Tout ce qui est défense et aménagement de la mixité sociale, donc à travers notamment le travail sur les écoles. Je n'ai pas développé en tant que tel, mais j'ai à travers un enquêté quand même eu tous les récits d'une mobilisation en faveur de la mixité sociale dans les écoles, la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques urbaines, ou encore l'accès à la culture, la démocratisation culturelle. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels les gentrifieurs vont s'investir de différentes manières, mais sous des formes associatives généralement. Je vais pas développer ce point-là, mais le fait que finalement, il y a des convergences avec la politique municipale, alors même que cette politique municipale reste une politique menée par une équipe communiste, qui cherche pas spécifiquement la gentrification, mais qui cherche quand même à sortir le quartier de la crise. Et donc en fait, les voies de sortie de crise ont finalement ressemblé un petit peu, pour différentes raisons, aux représentations que les gentrifieurs ont de ce que devrait être le quartier. Et donc finalement, il va y avoir des convergences de fait. Et juste peut-être finir sur ce que ces mobilisations montrent aussi comme diversité interne à ces gentrifieurs, puisque j'en ai fait un groupe un petit peu homogène. Mais il y a aussi des tensions hein, à l'intérieur même de ce groupe, des tensions entre les deux générations, hein, avec clairement des mobilisations beaucoup plus militantes et beaucoup plus politisées dans la première génération, et une certaine déception de cette première génération à l'égard de la seconde génération qui va beaucoup plus jouer la carte de l'entre-soi, du voisinage, et de mobilisation très professionnelle aussi. Hein, où en fait, entretenir son réseau de voisins, c'est entretenir son réseau de contacts professionnels, et un entremêlement très fort entre ces deux domaines, et par contre le politique, le militant est vraiment sorti du champ. Donc ça c'est une première ligne de tension. Une deuxième ligne de tension, ça va être une tension qui se révèle lorsqu'on les fait parler de leur rapport aux autres. Donc j'ai pas, moi, mis en place de dispositif pour analyser les cohabitations avec les classes populaires sur place, mais je les ai fait parler en entretien de ça, et clairement on voit une différence entre vraiment le pôle artiste, les professions artistiques, et puis artistes plutôt techniciens, et puis soit les artistes passés par les sciences humaines, soit les cadres du public, les enseignants, tous ceux qui travaillent dans les services sociaux ou les services de santé, et qui n'ont pas du tout le même rapport aux classes populaires, les premiers étant dans des univers professionnels très clos, restant beaucoup entre eux, et donc étant dans une sorte d'invisibilisation totale des classes populaires, tandis que les autres les voient. Ils me disent clairement, moi je peux pas ne pas les voir parce que ces jeunes là qui traînent en face, c'est mes élèves, et mes élèves ils ont un nom, un prénom, ils existent. Mais en fait, c'est pas pour autant que ça se passe mieux pour eux, parce qu'en fait, justement, ils aimeraient bien le week-end se reposer un petit peu de la fréquentation des classes populaires et revenir un peu à leur groupe social à eux. Et donc, finalement, c'est ceux qui sont le plus peinés, travaillés par cette pauvreté ambiante, par ce contact. Mais qui en même temps se mobilisent pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis une troisième tension qui me paraissait intéressante et révélatrice du phénomène de gentrification lui-même, c'était une tension là, si je resserre encore ma focale, uniquement au sein des artistes, enfin, à propos de la valeur des artistes de Montreuil, parce que Montreuil, il y a eu un effet d'adresse hein, assez rapidement, c'est-à-dire que Montreuil est devenu un endroit, un label pour des photographes, pour des graphistes, etc. Il y a les portes ouvertes des ateliers de Montreuil, enfin, ça devient un endroit où on sait que vivent et travaillent des artistes, quelle est la valeur de ces artistes. Mais en fait, il y a une ligne de tension entre ceux qui y croient, et qui disent qu'ils y croient, en gros, et ceux qui, en fait, me disent à moi, mais non, mais en fait, c'est des sous-artistes, n'importe qui se dit artiste, va voir pour de vrai, tu verras bien que ça n'a aucune valeur, etc. Et qui prennent leur distance par rapport à, la, à cette culture-là, à cette production artistique. Et en fait, ça s'expliquait clairement par des enjeux de trajectoire résidentielle et de trajectoire sociale. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui se permettaient de me dire « mais tout ça n'a pas beaucoup de valeur », c'était les gens dont la position professionnelle et surtout résidentielle était extrêmement stabilisée et qui, en gros, n'avaient plus besoin de faire bloc pour faire reconnaître la valeur de ce lieu ou la valeur de ce groupe social auquel ils appartenaient. Enfin, il me semblait qu'il y avait, et chez les autres, il y avait vraiment le besoin de faire bloc et de créer presque une sorte de croyance collective hein, dans la valeur de ce quartier, de ces lieux, de ce groupe social, de sa place dans l'échelle sociale. Voilà, je finirai juste par cette image et cette citation extraordinaire de la journaliste de Elle. Mmh. Aujourd'hui, on n'hésite plus à franchir le périple pour une soirée rock à Bagnolet ou une exposition recyclage à Montreuil, qui renseigne plus sur, le, sur d'où parlent les journalistes, pour les courants du centre de Paris.
Merci. Voilà.